Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, au programme de ce réveil culturel ce matin, les chansons pop mélancoliques d'un vieux trentenaire décidément pas prêt à devenir adulte. À l'occasion de la sortie de son troisième album chanté en français, l'auteur, compositeur, interprète Séverin est mon invité.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Quand bien même il y a des matins sombres où je peux pas écouter ta peine, où je veux profiter de ma pénombre sans devoir me lever à ton réveil. Quand bien même il y a tout qui déconne, quand on veut plus personne. Quand bien même tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et si chaque jour fait de nouvelles raisons pour rester caché sous la couette. Quand bien même on est les otages d'un monde qui attend plus qu'une allumette. Quand bien même ça tourne pas rond, si demain nous inquiète. Quand bien même tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et je sème ces mots à toi seul qui me rappelle que les orages sont plus beaux quand on s'aime. Ça ne tient qu'à nous de sortir du lit et d'ouvrir en grand les fenêtres, de crier à tous nos voisins qu'il est urgent de faire la fête. Quand bien même le cœur n'y est pas, je m'accroche à toi. Quand bien même tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Et je sème ces mots à toi seul qui me rappelle que les orages sont plus beaux quand on s'aime.
Des chansons d'amour, on en fait depuis des siècles, mais qu'est-ce qui fait que certaines nous touchent plus que d'autres ? Bonjour Séverin.
Bonjour.
Mais peut-être qu'avec vous, c'est le spleen contemporain que vous injectez dans vos chansons. Parce qu'effectivement, quand le monde nous échappe, dans on ne sait quelle direction, quand on désespère de notre vieille démocratie, quand on a peur des lendemains, autant de thèmes qui reviennent souvent depuis des années, des décennies, bah vous les marquez bien dans l'époque d'aujourd'hui.
Bah merci, c'est un très beau compliment. Mais c'est ça l'idée de cette chanson, ouais.
Quand bien même, donc, ouais. Et l'album s'appelle
Transatlantique.
Voilà, très bien, voyage donc.
Oui, ben c'est ça, mais c'est un peu ça qui est dans cette chanson et je pense dans d'autres. Moi, c'est ce besoin de trouver une issue positive, souvent, au monde qui nous entoure. Donc, ça peut être dans cette chanson, quand bien même, quand tant qu'on s'aime, on est bien quand même. Ce qui est, je pense, pour moi, un leitmotiv et quelque chose qui est récurrent dans ma façon de voir les choses.
Votre album, c'est le troisième qui est en français.
Au troisième, ouais.
Et vous êtes très inspiré, d'ailleurs la langue française vous inspire. J'ai du mal à imaginer que vous avez commencé dans la musique en chantant en anglais.
Bah oui, ça c'était... Comme, je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui ont fait ça.
Pourquoi c'est plus facile de jouer sur scène ou de faire de la musique quand on passe par l'anglais?
Je pense surtout que dans mon cas, c'est l'envie de faire de la musique est d'abord venue par l'amour de la musique. Et en étant adolescent, c'était plutôt la musique anglo-saxonne, moi, qui m'inspirait. Et pas tellement les textes en fait, c'est pas tellement quelque chose qui m'attirait, c'était plutôt vraiment la musicalité. Et en ça, c'est plus facile de chanter en anglais parce que quand c'est pas votre langue maternelle, les mots ont moins d'importance, ça peut être plus pop et vous êtes moins obligé de définir vraiment un vocabulaire, votre champ lexical, etc. Alors que quand on passe en français, là il faut s'exprimer.
Qu'est-ce qui a fait que 15 jours, c'est vrai, vous avez décidé de passer à la langue française?
Je pense que c'est la maturité.
Ouais.
Le grand âge, c'est l'envie de vouloir dire des choses. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en anglais, je ne faisais que en fait citer d'autres chansons anglaises et faire un genre de méli-mélo, de méga mix de mots que j'avais entendus. Voilà, parce que c'était pas ma langue maternelle. si on veut chanter l'amour dans sa langue, enfin pour être précis quand on chante l'amour ou autre chose, mais il faut utiliser sa langue maternelle, sinon c'est un peu fake pour utiliser un mot anglais.
On peut parler effectivement d'amour puisque c'est le thème central de cet album. C'est aussi comment faire avec l'amour quand les habitudes s'installent,
ouais.
Quand les peurs rythment le quotidien. Est-ce que l'amour c'est un refuge?
Je crois pas avoir la réponse. Mais oui, c'est central, c'est central. C'est pas que l'amour dans le couple ou c'est. Je pense que dans mon disque, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour des disparus, c'est l'amour de parental. C'est un mélange de tout ça. Mais c'est peut-être un constat que je fais en vieillissant, mais c'est toujours ça finalement la finalité de tout et la seule chose qui a vraiment du sens.
Il y a un côté quand même désabusé dans vos propos.
Mais je sais pas si c'est désabusé pour moi, je sais pas vraiment, c'est plus chercher des refuges et des moyens de passer sa vie et le mieux possible. Et voilà, en cherchant des refuges, donc là je parle de partir en vacances ou quoi, mais c'est des images.
Et de ne plus voter.
Oui, mais là encore, il y a une chanson, oui, qui s'appelle l'abstentionnisme, mais c'est pas le refuge, c'est pas de pas voter, parce que cette chanson, je l'ai écrite en allant voter, parce que j'ai toujours voté, et pour moi, ça me semblerait bizarre de pas voter, parce que je suis bien élevé et que ça fait partie de moi. Mais c'est plus chercher, là, dans cette chanson, je cherche l'abstentionniste qui est en moi, donc j'essaie de comprendre ceux qui ne votent pas, et en même temps, je les comprends. Pour le désamour de la politique ambiant et pour toutes ces choses-là. Mais en même temps, c'est pas qu'un constat d'échec, c'est plutôt un appel à l'urgence de faire des choses et à voter.
C'est vrai, vous êtes auteur, compositeur et même arrangeur. D'ailleurs, avant même de travailler pour vous-même, vous avez arrangé, réalisé des morceaux pour d'autres chanteurs.
Oui, pour surtout beaucoup de chanteuses. Comme j'ai commencé avec un disque où j'avais fait chanter 14 femmes, c'est surtout des chanteuses qui m'ont appelé.
Camilla Giordana.
Oui, le premier disque Camilla Giordana ou Rose ou d'autres chanteuses. Et c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment un autre métier complètement que celui d'être sur scène ou d'écrire ses propres chansons. Mais c'est plus un métier un peu de directeur artistique. Mais
comment on devient directeur artistique en musique, c'est vrai?
Ça c'est le hasard des rencontres, je crois. Mais même faire de la musique, c'est le hasard des rencontres, honnêtement. Moi, j'ai jamais pensé que je serais musicien ou que je ferais des interviews comme ça aujourd'hui, voyez-vous. Ça vient plus petit à petit.
Mais vous avez commencé à écouter de la musique, à pratiquer oui. De la musique. C'est quoi votre parcours?
J'ai d'abord fait des études parce que je viens d'une famille où faire des études, c'est primordial. Et donc, il fallait trouver des études.
Vous avez opté pour quoi?
J'ai opté pour le. Je voulais faire du. J'ai fait une école de cinéma parce que je pensais que c'était les seules études qui avaient l'air sérieuses et artistiques. Enfin, en tout cas, c'était pour rassurer mes parents. Et résultat, je n'ai fait que fumer des joints et rencontrer des gens. Mais ça m'a ouvert quand même sur plein de gens différents. Et finalement, voilà, j'ai fait des musiques de films. Et voilà, petit à petit, j'ai rencontré d'autres musiciens et j'ai fait un premier groupe qui a fini en maison de disques. Et là, je me suis dit que ça pouvait être professionnel.
Mais quand vous dites « j'ai fait des musiques », c'est-à-dire, pour être plus précis?
Bah, des musiques de films, c'est-à-dire sur les films de l'école, etc. Donc, j'ai jamais touché tellement une caméra. Je me suis toujours retrouvé du côté du son et de... Mon ambition de départ, c'était de faire des comédies musicales. Pour des parents, je pense que c'est rassurant, un enfant qui vous dit qu'il veut faire des comédies musicales, plus rassurant qu'un enfant qui vous dit qu'il veut être chanteur à texte et faire des disques. Donc voilà, c'était une issue positive et j'adorais les films de Jacques Demy à l'époque.
Et vous avez appris la musique avec un instrument de musique en allant au conservatoire ou c'est avec les ordinateurs?
J'ai commencé avec la clarinette au conservatoire, mais que j'ai vraiment détesté, donc c'était un vrai cauchemar. Et puis j'ai découvert la guitare, et comme un adolescent boutonneux assez classique, j'ai découvert la puissance de la guitare et l'impact que ça avait sur les gens. Et ça m'a séduit très vite.
Pour cet album, ce troisième album, c'est vrai, vous avez tout fait tout seul, c'est-à-dire que c'est un album autoproduit, on peut le dire.
Oui, financièrement autoproduit, avec mon label, etc. Après, tout seul, non, pas du tout. C'est une vraie équipe. Il y a 15 personnes qui travaillent sur le disque, en fait, parce que il y a 5 musiciens, il y a 11...
Que vous avez invité chez vous?
Non, là, c'est vrai.
Vous avez pris un studio?
Oui, c'est Marlon, qui est un producteur en vogue, comme on dit, qui a fait Juliette Armanet dernièrement, ou Brigitte, et qui a son studio. Et donc, voilà, je lui ai confié la clé du bateau. et c'est lui qui a dirigé toute l'équipe et qui a fait le travail que moi je fais sur d'autres par ailleurs, c'est-à-dire c'est ça le travail de réalisateur artistique aussi. Et là c'est lui qui a pris toutes les commandes et moi je n'ai été que chanteur.
Auteur, compositeur aussi.
Bien sûr. Oui, bah ça c'est mais ça c'est le travail en amont, ça c'est d'écrire les chansons chez soi et d'abord de trouver quelque chose à dire quand même.
Alors comment vous écrivez chez vous, Séverin ?
Bah justement là je voulais revenir à l'essence des chansons. Donc j'ai composé tout chez moi vraiment alors que j'ai un studio par ailleurs, mais là je suis resté chez moi en enregistrant avec une guitare sèche très simplement sur un ordinateur portable. J'ai voulu retrouver quelque chose qu'on a au début quand on commence la musique, c'est-à-dire très peu de moyens et c'est d'abord les chansons qui priment.
Avec une envie de raconter quelque chose, de dire quelque chose, ou ce sont des humeurs de l'époque que vous viviez, que vous avez essayé de traduire en chanson, en musique?
Ça, je pense que ça se pose pas tellement comme un concept avant de
voilà,
faire les chansons.
Là, c'était ça la question. Êtes-vous conceptuel, c'est vrai?
Non, je suis pas un artiste conceptuel. Moi, je suis un artiste du quotidien. Ce que je veux, c'est raconter des histoires vraies qui m'arrivent ou parler de mon entourage et que ce soit juste, c'est ça mon objectif.
Non mais je le disais en introduction de cet entretien que votre album est cool, mais oui c'est un album cool, d'un dandy amoureux on peut le dire, mais il y a aussi toutes les inquiétudes de l'époque dans votre disque.
J'espère, mais parce que j'espère que ça me ressemble et j'espère ne pas être totalement déconnecté du monde dans lequel je vis.
Et des refrains qui collent à la peau.
Ah oui.
Vous
ah.
commencez par les refrains. C'est une fois que vous avez trouvé le refrain, que vous avez la chanson, ou une fois que vous avez le gimmick ou la rythmique ou
non, il n'y a pas de règle. Ça dépend des morceaux. Je pourrais vous dire pour chaque morceau, il y en a qui où vraiment ça vient des couplets ou que j'écris sans musique, donc purement du texte. Et de temps en temps, par contre, j'aime bien avoir des mélodies en marchant dans la rue. Donc, il peut m'arriver d'avoir des idées de refrain.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Si un jour notre ciel devient gris, avant que l'on perde notre envie, si nos sourires n'ont plus d'éclat, parle-moi, parle-moi. Et si j'oublie de te regarder, que notre vie est trop installée, avant que notre amour devienne flou, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal, tant que le silence ne s'installe pas, parle-moi. Voler nos affaires, que les bougies puissent faire des éclairs, car si le cœur n'est plus jaloux, parlons-nous, parlons-nous, avant que je m'imagine dans d'autres lits, parle-moi, que tu te fasses belle quand je suis parti, parle-moi, pour qu'on reste toujours debout, parlons-nous, parlons-nous. Qu'il y ait des flammes, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des larmes, qu'il y ait des pleurs, ça m'est égal, tant que le silence ne s'installe pas, parle-moi.
Parle-moi, un autre extrait de votre troisième album, c'est vrai, Transatlantique, c'est le titre de l'album. Belle chanson sur le couple.
Oui.
Pour les vieux trentenaires qui doivent écouter cette chanson.
Pourquoi les vieux trentenaires? Je pense que le
dialogue... Parce qu'on sent bien qu'il y a déjà eu au moins une dizaine d'années...
Du vécu.
De vécu entre elle et lui, entre vous et elle.
C'est vrai. Mais ouais, peut-être. Peut-être que c'est une chanson de trentenaire. Mais non, c'est le dialogue dans le couple, vous savez. Ça, c'est... Mais c'était peut-être valable quand on avait 20 ans, non?
Aussi ?
Non, je sais pas. Bah oui, oui, mais encore ce matin, j'étais avec ma femme en train de lui dire « parle-moi », sans la chanter, hein, je veux dire, en lui disant.
Et cette idée de mettre des musiques plutôt joyeuses quand les propos ne le sont pas forcément, au premier degré, c'est une idée de vous, en tant qu'artiste, auteur, interprète, ou c'est le réalisateur de votre album, c'est vrai ?
Non, ça c'est... Mais c'est pas encore une idée, parce que moi je réfléchis vraiment pas en termes de concept tellement avant de le faire, mais ça c'est plus mes influences brésiliennes de par ma femme, et voilà, de beaucoup d'influences comme ça métissées que j'ai en moi depuis longtemps, et c'est ce que j'aime, et c'est vrai que c'est souvent le cas dans la musique brésilienne, c'est-à-dire que ça peut être des paroles assez tristes, la saudade et tout, vraiment avec quelque chose de mélancolique, mais toujours avec une musique assez joyeuse. Et ça, j'aime, moi, ça, j'aime ce côté-là, qui est peut-être pas souvent très français, parce que les Français souvent aiment bien être mélancoliques dans les paroles et dans les textes, et vraiment y aller profondément là-dedans. Moi, j'arrive pas tellement à faire ça. Et comme dans la vraie vie aussi, c'est que j'aime bien sourire, même dans les enterrements. Donc c'est voilà, c'est ma façon de faire ma façon de m'exprimer, je crois.
À quel moment une chanson existe ? C'est au moment où vous l'écrivez, au moment où vous avez trouvé la mélodie, au moment où vous l'enregistrez ou au moment où vous l'interprétez sur scène, c'est vrai ?
Pour moi, elle existe quand elle est finie d'être écrite, avant d'être enregistrée. Ouais, c'est vraiment ça, parce que j'ai des centaines de morceaux chez moi, dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, qui sont des morceaux, qui sont presque des morceaux, mais qui n'ont pas trouvé leur point final.
Qu'est-ce qui leur manque ?
Bah, il leur manque soit un vrai refrain, soit mais ça peut être même, il peut leur manquer trois phrases, en fait, qui rendraient le morceau beau, intelligent, sensible ou quoi. J'ai pas mal de morceaux qui commencent très bien, et puis un moment où on se perd dedans, et puis il reste pas grand chose à la fin de l'écoute. Et ces morceaux-là, je les jette généralement.
Est-ce que vous vous inscrivez dans une certaine tradition de la chanson pop française, c'est vrai?
Ah, bah oui, je crois, oui.
C'est-à-dire que si jamais je cherche un père, si jamais je vous cherche un père du côté de, je sais pas, Étienne Dao et Alain Chamfort, je suis dans la bonne direction ou?
Vous êtes pas dans l'erreur,
mais même si vous les avez pas du tout écoutés quand vous étiez adolescent.
Ouais, mais Étienne Dao j'avais écouté un peu, ouais. Mais Alain Chamfort pas tellement. Mais bien sûr ça fait partie de l'ADN musical français aussi, donc on peut pas en fait passer outre si on a écouté un peu et qu'on s'est intéressé à la musique.
Alors, puisque vous avez eu une jeunesse plutôt anglo-saxonne, électro-rock, ouais. Et que maintenant, dans l'âge adulte, et vous vous posez dans le musical français, dans l'histoire de la chanson, ouais, française, qu'est-ce qui change fondamentalement?
Dans les musiques qu'on écoute? Dans les musiques qu'on écoute, je peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai perdu non plus toutes mes influences anglo-saxonnes, parce que je continue à les écouter. C'est le texte, c'est vraiment le texte pour moi, la différence entre ces deux musiques-là, entre la musique anglo-saxonne. Évidemment je veux pas dire qu'il n'y a pas de poésie et de mots dans les musiques anglo-saxonnes comme les Dylan et tout ça, il y a une vraie chanson à texte. Mais quand même, l'importance des mots en français, elle est cruciale. Il y a pas tellement de Led Zeppelin, par exemple, en français. Ce serait assez bizarre de dire bébé, bébé pendant 3 minutes 30. Alors que la langue anglaise permet de faire ça. Donc voilà, c'est le poids des mots, donc c'est une contrainte et c'est quelque chose de génial, c'est que voilà, le choix des mots dans Gainsbourg, c'est magnifique, c'est quelque chose de très intense et quelque chose que j'adore découvrir et qui permet, je trouve, de faire vivre les chansons très longtemps.
Et comment ils arrivent les mots chez vous, c'est vrai ? Vous êtes entouré de dictionnaires ou pas du tout ?
Non, pas tellement, mais je peux pas nier qu'il y a une part de mon éducation en fait qui est aussi dans ma musique, c'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir toujours baigné dans un milieu culturel très riche, et ma mère étant journaliste, mon père économiste et tout, donc je pense que l'importance des mots, elle était là en fait déjà très tôt.
Par les livres, oui. La poésie et la chanson ?
Bien sûr, mon père c'était un fan de René Char ultime, donc j'ai pas... Ouais, j'ai été baigné là-dedans, j'ai eu cette chance-là, donc ça c'est quelque chose où j'ai pas eu tellement à travailler pour ça. Et on m'a forcé à lire en fait presque quand j'étais petit, qui était pour moi une douleur et qui en fait maintenant aujourd'hui je me rends compte l'importance que ça a eu. Et après par contre c'est tout ce chemin a été aussi de trouver mon propre langage et mes propres mots. Moi, et ce que je veux dans mes chansons, c'est que ça ressemble à mon langage parlé. Je veux pas chercher à Je veux que ce soit simple et direct toujours.
Il y a une chanson dans votre album, qui clôt l'album, qui s'appelle 30 minutes après ma mort. Par exemple, s'il fallait nous raconter la jeunesse de cette chanson, c'est vrai?
C'est deux choses. C'est, d'une part, ça parle un peu de la mort de mon père, parce que, voilà, c'est ce moment où quand vous avez un proche qui disparaît, tout le monde vous dit qu'il était génial et vous avez un peu envie de dire à tout le monde qu'il aurait fallu le faire quand la personne était encore là. Ça, c'est un souvenir d'enfance que j'ai vraiment eu, qui m'a marqué. Et à côté de ça, c'est aussi la mort de Hubert Mounier, en l'occurrence, le jour où j'ai écrit cette chanson-là, qui était le chanteur de l'affaire Louis Trio. Et je connaissais peu, mais je voyais tout le monde sur Internet être là, rest in peace, magnifique chanteur, etc. Et en lisant un peu sur lui, on découvrait qu'il avait passé les 10 dernières années de sa vie vraiment isolé, tout seul, assez abandonné. Et voilà, je trouvais ça paradoxal, cet amour... Internet soudain qui allait durer 40 minutes face à quelqu'un qui avait fait des magnifiques chansons et qui avait fini complètement abandonné.
J'ai connu mon heure de gloire, environ 2 années de mon vivant, où j'ai été la bête de foire, celui avec qui on veut passer du temps. J'ai connu le succès, la jalousie et puis l'oubli, et j'ai vu partir sans un bruit ce qui m'aimait dans la lumière pour entrer dans les années sombres. 30 minutes. Car quand mon heure est arrivée, la vraie, celle qui vous laisse inanimée, il n'y avait personne pour m'applaudir, il n'y avait personne depuis des années. 30 minutes. Il y a 30 minutes, je m'éteignais. Je trouvais l'apaisement radical dans un dernier souffle discret. C'était il y a 30 minutes. Voilà qu'on parle de moi au passé. L'information a circulé. Et celui que j'étais il y a 31 minutes laisse place à l'immense larme qui vient submerger la toile. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Il aura suffi de 30 minutes et ma page Wikipédia reprend vie en annonçant ma mort. Les souvenirs, les anecdotes, les ennemis qui hier encore m'auraient passé les menottes se pressent pour fleurir ma porte. C'était il y a 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes.
Vous ne chantez pas seulement, minutes. Vous pouvez aussi interpréter un texte sur de la musique, c'est vrai?
Oui. J'espère que je l'interprète justement. Mais oui, c'est une autre façon de chanter en fait, parler. Ça permet une certaine liberté quand même. Dire chanter, c'est forcément un peu une prison parce qu'il faut respecter quand même un peu une mélodie et puis un tempo. Le parler, ça vous permet vraiment d'être totalement libre. Et là, ça se prêtait bien à ce texte-là. Je finis la chanson en la chantant, mais je commence en parlant parce que voilà, j'ai écrit le texte à froid, complètement sans musique, et c'était comme ça que j'étais le plus libre pour le dire.
Vous tournez avec les mêmes musiciens depuis quelques années, c'est vrai, ou...
Oui, j'ai toujours, en tout cas, deux de mes musiciens qui sont là depuis longtemps maintenant. Oui. J'aime bien, c'est partir en tournée, c'est autre chose, c'est un autre métier, mais c'est bien que ce soit un peu familial.
C'est un autre métier. Est-ce que c'est d'autres versions de vos morceaux que vous présentez au public, ou vous essayez de respecter la structure de la chanson telle qu'elle a été livrée en disque, diffusée en radio?
Non, on l'adapte pour qu'elle soit le mieux possible avec le nombre de musiciens qu'on est, parce qu'on peut pas, on peut pas être 5 sur scène, c'est toujours un peu compliqué en 2019. Donc on est un peu moins nombreux, et donc il faut s'adapter. Mais moi, je veux que, par contre, il y ait pas trop d'ordinateurs, etc., qui tournent derrière. Donc je veux que ça reste assez fragile. Donc on fait au mieux avec nos moyens.
Et vous serez en tournée à partir de septembre, c'est ça? À partir, ouais, de la rentrée. Mais on peut vous voir en concert le 28 mai, puisque vous partagez le Zénith de Strasbourg avec M.
Tout à fait. Bah là, c'est des premières parties, ouais. J'en fais plus quelques-unes avec M, avant son spectacle, pour ouvrir l'artiste. Mais je sais pas si ça se dit, ça. Je suis pas sûr.
Parce que vous connaissez? Ou c'est une idée du tourneur?
Non, je le connais pas. Je vais le rencontrer, là, pour ça. Mais non, c'est assez classique. Quand un gros artiste comme M, qui fait des tournées gigantesques, il a cette gentillesse de proposer à des artistes qu'il aime bien de faire des dates pour être là avant son concert. Et donc voilà, j'ai eu la chance j'ai la chance de pouvoir le faire.
Merci Séverin, je rappelle que votre album, troisième album en français, Transatlantique, est sorti. On peut réécouter cette interview en passant par franceculture.fr, à la coordination Corinne Amar, aidée par Maël Ray, à la réalisation Vincent Bouchard, assisté à la prise de son par Soed Bokarsa. Le Réveil Culturel, c'est très tôt à la radio dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast de l'émission. Merci Séverin, bonne journée.
Merci à vous, à très bientôt.